Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 10h06 sur RMC, vous écoutez les grandes gueules du sport en direct jusqu'à midi, vous l'avez entendu avec Jérôme Pinault, Pascal Duprat, Fred Weiss ce matin. Les grandes gueules du sport à retrouver aussi tous les jours en podcast. Vous pouvez retrouver d'ailleurs dès maintenant notre débat sur les lofts dans le foot. C'est sur l'appli RMC que ça se passe. Dans 30 minutes, la punchline signée Sofiane Meyaoui, athlète paralympique, qui répond à Teddy Riner. Non, nous ne sommes pas des super-héros. Et dans une heure, les grandes gueules passent la seconde pour revenir sur une grosse info de la semaine. Kylian Mbappé qui réclame 55 millions d'euros au PSG. Est-ce que vous trouvez ça choquant ou non? Vous venez nous le dire au 32-16. Sans oublier, à 11h45, ce moment que vous attendez tous, les grandes gueules contre-attaquent. Les grandes gueules du sport qui prennent les commandes de l'émission en proposant un débat. Vous pouvez voter dès maintenant sur le compte X des grandes gueules du sport pour votre débat préféré. Et le grand gagnant lancera le débat à 11h45. On attend vos propositions, messieurs. Honneur à celui qui a remporté le débat hier, Pascal Duprat, tenant du titre. On t'écoute, Pascal.
Oui, eh bien écoute, je voudrais parler des supporters ou des revendications des supporters en Ligue 2. Hier, le match Lorient-Grenoble a été interrompu pendant 25 minutes. Ouais. Et des supporters ont fracassé, saccagé les bus de production de beIN Sport. Donc je dis simplement attention, messieurs les supporters. Revendiquer, c'est une chose. Mais vandaliser, c'en est une autre, et je pense que c'est pas la bonne voie. Mmh. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?
Très bien. Le débat de Pascal. Jérôme, ton débat.
Eh ben moi, je vais vous parler d'une petite course sympathique qui se déroule en ce moment en Espagne, qui s'appelle la Vuelta. Et oui, messieurs, c'est en ce moment la Vuelta. C'est le troisième des grands tours cyclistes, c'est le troisième monument grand tour. Et même si apparemment ça fait pas le buzz et que personne le suit, ben moi je le suis très près et j'ai envie de parler de cette Vuelta, de vous en parler et de vous demander si finalement c'est pas la course la plus sympathique à suivre depuis le début de saison, en l'absence de Pogacar, en l'absence de Vingegaard, avec un Roglic un peu dominateur mais pas trop. Et la chance aux audacieux, la chance aux échappés. Moi, j'ai envie de parler de ça avec vous et de savoir si finalement la Vuelta, c'est pas le pied par rapport au Giro et au Tour où on s'est fait chier.
Très bien.
Moi, j'ai envie de t'écouter, Jérôme, mais hors antenne.
Ah bah, tu vas voter pour lui. Tu as le droit de voter aussi, Pascal.
Non, déjà, François, tu m'as massacré hier. J'ai réussi à gagner. Commence pas aujourd'hui, s'il te plaît.
Fred Weiss, ton débat, Fred, pour aujourd'hui.
Mais moi, déjà, pour commencer, j'avais envie de tacler Pascal parce que hier, il a gagné, mais il n'était que deux. Alors, est-ce qu'il y a pas un honneur à gagner?
Je veux dire, c'est facile. Ouais.
Déjà, mais le sujet me plaît. Et le sujet me plaît. Et si ça n'avait pas été en opposition au mien, j'aurais voté pour lui. Donc, moi, j'avais envie de parler des Jeux Olympiques. On est encore dans cette euphorie-là. On a Gershon Yabusele, le meilleur joueur de l'équipe de France pendant ces Jeux Olympiques, qui quitte le Real Madrid. Donc, une équipe d'Euroleague et qui va partir en NBA. Alors, je voulais savoir si vous étiez déçu qu'il parte en NBA ou très heureux de ce qui s'était passé et cet effet JO pour les basketteurs français.
Eh ben écoutez, vous avez il y a très très bon débat là. Ça va être difficile de vous départager, je pense, sur le compte X des grandes gueules du sport. Vous avez jusqu'à 11h45 pour voter, vous avez le temps. N'hésitez pas à appeler vos familles, vos amis pour faire gagner Pascal, Jérôme ou Fred. Moi, je ne sais pas pour qui voter là, je suis perdu, j'avoue. Et puis ce dimanche, dans les grandes gueules du sport, on vous offre aussi un super cadeau, une enceinte prodige de la marque française Absolument, c'est le nom de la marque. C'est une enceinte éco-responsable, durable, puissante. Franchement, elle est assez jolie. C'est l'enceinte parfaite, en gros, pour écouter les GG n'importe où, n'importe quand. Pour gagner votre enceinte prodige, c'est simple. Vous appelez dès maintenant le 3216 touche 4 ou alors vous envoyez le mot musique au 73216. Musique au 73216. Bonne chance. C'est ce qu'on vous offre ce matin dans les grandes gueules du sport, cette enceinte prodige.
RMC.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame?
Le cycliste qui a connu une semaine plutôt animée. Il y a d'abord eu cette image anecdotique, mais quand même peut-être symbolique, des coureurs de la Vuelta qui ont pris le départ d'une étape d'un Carrefour. Je parle bien du supermarché Carrefour, l'un des sponsors de la course. Vincent Lavenue, dirigeant historique de l'équipe AG2R, poussé vers la sortie depuis les changements à la tête de l'équipe. Et puis notre grande gueule Marc Madiot, qui disait cette semaine dans Ouest France que l'écart se creuse de plus en plus entre les grosses écuries et les autres. La puissance d'équipes comme UAE, Visma, peut-elle faire craindre d'un cyclisme à deux vitesses? Alors, est-ce que le business est en train de tuer le vélo? Dans le coin gauche, on trouve la team Non. Jérôme Pinault, Pascal Duprat, associé. pour faire face dans le coin droit à la team Oui, ça tue le vélo, représentée par le seul et l'unique Fred Weiss. Avant d'en débattre, messieurs, le petit sondage sur le compte X des grandes gueules du sport qui nous donne pour l'instant un large avantage à la team Oui de Fred Weiss. 70% des gens qui nous suivent pensent que le business est en train de tuer le vélo. Donc vous connaissez le principe, c'est la team Non qui
allons-y,
doit faire son retard. On va commencer par Pascal, si tu veux bien, Jérôme, parce que voilà, évidemment.
Jérôme,
on est équipier. On roule en tandem.
La deuxième là.
Jérôme, il va aller en profondeur. Moi, je vais aller du côté superficiel. On va te flinguer
sur le vélo, Fred.
Oh, allez-y, j'attends que ça.
Une demi-personne.
Non, ce qu'il y a de sûr, c'est que Marc Madiot, notre collègue, a raison. On va aller de plus en plus vers un cyclisme à deux vitesses, et certainement que les personnages comme lui ou comme Bernaudot ou comme Vincent Lavenu qui apparemment vient de se faire licencier, ils vont avoir du mal à exister. Cela dit, le fait qu'il y ait davantage d'argent, de business dans le vélo, eh bien ça permet de mieux rémunérer les coureurs, ça permet d'être plus performant quant à la lutte contre le dopage, la technologie s'améliore, les coureurs sont bien mieux préparés, ont des diététiciens, ont des programmes qui sont performants aujourd'hui, et cette prolifération de coureurs, eh bien, fait que, eh bien, on assiste à une Vuelta, comme l'a dit tout à l'heure Jérôme, de grande qualité, alors que les cadors ne sont pas là. Non, au contraire, je pense que le fait que le business soit dans le cyclisme, bien sûr, ça modifie ce qu'il se passait avant. Ça modifie. On aura certainement plus ce qu'on voyait naguère. Tout est plus légiféré, les oreillettes sont là pour le prouver par exemple, mais cela dit, ça permet au cyclisme de mieux vivre, de préparer des joueurs, chaque équipe a un réservoir, a des jeunes qu'il prépare. Non, tout ceci est bien pensé, et au contraire, je pense qu'à terme, ça fait du bien au cyclisme que de voir des grandes entreprises s'intéresser à ce sport magnifique.
Alors, je m'attendais à ce que Fred Weiss réponde non aussi à cette question, parce que c'est quand même monsieur business, hein, monsieur NBA. Fred, mais pour toi, ça va tuer le vélo, ça peut tuer le vélo.
Mais ça veut tuer, évidemment, mais ce que je viens d'entendre, ça me choque, parce que effectivement, il y a plus d'argent, et ça c'est une chose bénéfique, sauf qu'il n'y a pas de répartition. Et ça c'est la différence principale avec la NBA. La NBA, c'est un système communiste. C'est-à-dire qu'en gros, tout est partagé de façon égalitaire. Tout le monde gagne la même chose. Il y a des salary cap, il y a un plafonnement budgétaire, il y a des luxury tax quand tu dépasses l'argent que tu donnes. Quand ton salary cap est dépassé, tu payes une taxe en proportion de ce que tu as dépassé. Donc c'est-à-dire que tout est fait pour que ça soit égalitaire, que tout le monde ait sa chance et que personne ne soit laissé sur le côté. Alors, on a même un système de draft, mais qui serait très compliqué à mettre en place pour le cyclisme, mais qui rééquilibre les forces de chaque équipe. Là, on se rend compte que la Vuelta est de qualité parce que les cadors sont pas là. Et ça, c'est une fierté. Ben non. On veut voir les cadors. On veut que tout le monde soit présent, que ça soit de qualité, mais qu'il n'y ait pas une disparité exceptionnelle entre les plus gros qui ont 50, 60 millions de budget, qui sont des équipes État et ou des sponsors énormes des sponsors plus normaux. C'est-à-dire qu'en gros, il y a les gros qui vont se partager, les cinq gros vont se partager tous les titres, les autres vont ramasser des miettes. Et vous trouvez que c'est bien ça? C'est-à-dire qu'à partir de là, on prend des décisions uniquement pour le business. C'est-à-dire qu'on va virer les anciens comme l'avenue, effectivement. Peut-être que Marc Madiot fera les frais un jour de ça aussi, parce que on veut tellement tendre sur le business. Moi, ce qui me plaît dans le vélo, objectivement, c'est justement ce qui s'est passé, l'histoire, le pourquoi, du comment. Alors oui, le business, c'est important. Sur ça, je rejoins Pascal. C'est important parce que ça fait progresser plein de choses. Sauf qu'il faut partager de façon égalitaire pour que ça soit intéressant. Sinon, vous savez comment on appelle un pays où il y a de telles disparités entre les plus riches et les plus pauvres, un pays en voie de développement. Si vous voulez que le cyclisme devienne un sport en voie de développement, il faut continuer comme ça.
Fred,
si vous voulez qu'il progresse vraiment, il faut partager les richesses.
Vas-y, Jérôme.
J'ai répondu non. Pourquoi, les garçons?
Mais ça m'a surpris aussi.
Parce que dans le vélo, on fait pas de business. On n'en fait pas. Et c'est ça le problème qui se passe aujourd'hui. C'est qu'on n'a pas réfléchi un seul instant à repenser notre système économique. L'argent du vélo vient des partenaires, qu'ils soient privés ou étatiques. On le dépense et quand il n'y en a plus, on retourne en chercher. On ne crée pas de richesse. On ne fait pas de recettes. Il n'y a pas de ticketing. Il n'y a pas de transfert. Il n'y a pas de droit télé. Et on fait un championnat et on fait des courses. Et on parle d'un sport où on est sur un niveau mondial. C'est-à-dire que Fred, j'entends tes arguments. La NBA est très bien. Tout le monde joue dans le même pays. Tout le monde a les mêmes lois et les mêmes règles. Nous pas. Le problème qui se creuse, le fossé qui se creuse depuis des années et des années dans le cyclisme, entre le cyclisme français, on parle de ça, hein, et les équipes surpuissantes, c'est la fiscalité. C'est-à-dire que si déjà on arrivait à trouver des solutions pour cela, pour les équipes françaises, pour ne pas être taxé autant et sur l'employabilité des sportifs.
Ça, c'est valable pour tous les sports.
Ça, c'est valable pour tous les sports, mais on ne te met pas en compétition, Pascal, dans le championnat de France, à part avec
Monaco. Alors, je peux
avec des pays qui peuvent employer. Moi, je te dis juste un exemple.
Tu fais des Coupes d'Europe, par exemple.
Ouais, ben voilà.
T'as des clubs qui sont surendettés. En France, on a des clubs qui ne sont pas endettés.
Voilà, tu t'es souvent confronté à ce genre de problème. Aujourd'hui, une équipe belge peut avoir 26 coureurs, 27 coureurs, 30 coureurs qui sont auto-employés, auto-employeurs. C'est-à-dire qu'ils sont leur propre patron. Ils ont un statut d'auto-employeur dans leur équipe, ce qui n'est pas possible en France. Par exemple, tu vois, déjà, cette grosse différence, elle est là. Et moi, où je dis non, pourquoi c'est pas en train de tuer? Au contraire, on a des grands partenaires qui arrivent. Carrefour, ils mettent 20 patates pour organiser la Vuelta. Ils en mettent 2 ou 3 dans chaque petite course à côté.
C'est grotesque quand même.
Évidemment
qu'ils
peuvent faire partie. Mais c'est grotesque, c'est au syndicat des
coureurs cyclistes. Il y a
des gens
quand même
qui sont
ridicule.
Payés pour ça. Mais bien sûr.
Mais prochain départ mais d'une étape du Tour de France, du zoo de Beauval apparemment. C'est sympa.
Et pourquoi pas? Pourquoi pas?
C'est mieux que dans un Carrefour.
Si tu pars d'un Carrefour, si tu pars du zoo de Beauval, le zoo de Beauval il fait un chèque de 15 patates et qu'il y a 1 million par équipe qui revient, moi je pars dans la fosse au lion, moi il y a pas de problème. Sauf que là,
mais encore une fois, c'est le partage.
C'est l'organisateur, Fred,
c'est le partage qui est important.
Mais oui, mais le problème des dirigeants du cyclisme et notamment français et du dirigeant du cyclisme, c'est qu'on sait pas se mettre autour du table en disant bon malin, ça suffit. Il y a des mecs qui prennent le pognon parce qu'ils nous font partir des supermarchés, des trucs. Ils ont des partenaires qu'il faut surtout pas toucher dans les équipes, sinon on n'est pas invité à leur course. Là, maintenant, il va falloir partager. Mais ils n'en sont pas capables. Ils ne sont pas capables de s'entendre.
Mais donc, le business va les tuer.
J'étais moi partie de ces gens-là à une époque. J'ai voulu développer ma marque. J'ai voulu développer des produits dérivés. J'ai voulu organiser ce qu'on appelle tout simplement de l'hospitalité dans le vélo. J'ai fait des choses comme ça. On m'a mis des bâtons dans les roues à chaque fois parce que on n'a pas repensé ça et parce qu'on n'a pas envie. On enrichit toujours les mêmes et les équipes, elles sont à la traîne pour ça aussi. Parce que il est trop tard maintenant, je pense, pour penser à cela. Le renouvellement passe par, et moi j'ai énormément de respect pour Vincent Lavenu et tout ce qu'il a fait, mais le renouvellement passe aussi par l'arrivée dans le cyclisme de personnes qui ne viennent pas de ce milieu.
Ça te choque pas, toi, ce qui se passe pour Vincent Lavenu?
Mais bien sûr que ça me choque. La forme me choque.
La forme, oui.
La forme choque et je lui adresse tout mon soutien et je le ferai dans les jours à venir par texto parce que il est avec sa fille à Plouay, il profite, il fait autre chose. Mais le fond, c'est l'arrivée de personnes qui pensent différemment, qui vont voir le cyclisme comme un autre sport qui ce qu'il est depuis des années, c'est-à-dire qui comprend les codes dans l'organisation, mais qui va aussi aller chercher des leviers.
Mais comment voulez-vous générer des recettes au vélo?
Écoute, autre tout à l'heure, tu m'as dit le vélo, c'est un très beau sport. Le vélo, c'est un très beau sport.
Très beau
et aujourd'hui, on est en train de se structurer avec des jeunes équipes. Il y a une chose à faire déjà. Transférons les joueurs. Transférons les coureurs. Quand on dit transfert dans le vélo, c'est insulté.
Vous n'avez pas
le tour de l'avenir. On ne peut pas. Le tour de l'avenir vient de voir le succès d'un jeune anglais, Blackmore. D'un mec qui a monté le Collet de la Finestre hier, plus vite que Chris Froome il y a quelques années. Le gamin, il est déjà sous contrat chez UAE. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en France, avec nos gamins? On a des très très bons coureurs en France. AG2R, la mondiale, va bientôt avoir dans ses rangs Léo Bizio, qui vient de signer professionnel, qui vient de faire 4e du Tour de l'Avenir. Énorme talent. Et grand
talent. Et il va pas pouvoir rester en France. Tu le sais, Jérôme,
Mais Fred, pourquoi on a signé?
Mais parce que l'argent est roi. Mais non, et parce que le business est en train de tuer le sport.
Si tu dis que ce gamin-là, si tu signes ce gamin-là, 6 ans. Et tu dis, il va signer 6 ans chez nous. Léo, tu vas signer, tu vas avoir des super conditions. Par contre, tu vas signer 6 ans, tu auras des clauses de sortie, mais ce seront des clauses payantes. On commence à mettre en place ce qu'on appelle le transfert dans les autres sports. Tu veux mon jeune talent, pas de problème, mais tu payes tant d'euros, tant de milliers d'euros, tant de millions d'euros. Et toi, tu fais des rentrées, et avec ça, tu reformes, et tu continues, ouais. Et t'essayes. Parce que la meilleure des formations des gamins, c'est chez nous, les gars. Chez nous, on a tous les champions du monde, les champions d'Europe, jusqu'à junior, cadet, junior, espoir. Mmh. Et ensuite, il n'y a plus personne parce que les grandes équipes...
Éclaire ma lanterne sur ce sujet. Un coureur, dans, quelles que soient les équipes françaises ou étrangères, il signe bien un contrat. Ce contrat, il est bien validé par l'UCI. Ce contrat à temps. Donc, à partir du moment où ce contrat à temps, il est signé, le coureur, il ne peut pas partir comme il veut. Donc tu pars qu'au prétexte qu'on te dédommage.
Mais j'ai deux airs. Dans le football, Pascal, oui. Tu signes 4 ans avec l'Olympique de Marseille et qu'au bout de 2 ans, ton club est d'accord pour te vendre et le club, un autre est capable pour l'acheter. On fait un transfert, Non,
c'est oui, ça se passe. Mais vous le faites pas, ça n'existe pas.
Jusque-là, déjà, il y avait des choses. Jusque-là, des partenaires, on pensait, nous, vélo, contrat partenariat. Donc je signe 2 ans avec Trucmuche. Il me donne le pognon pendant 2 ans, donc moi, je peux pas signer plus de 2 ans, puisque au bout de 2 ans, je sais même pas si mon coureur, il va être encore chez moi, puisque je sais pas si j'aurai l'argent pour le payer. Donc on signe des
contrats. Et donc c'est le problème d'économie, encore aujourd'hui, une fois, Jérôme. Si t'as l'économie, si t'as l'argent, tu peux faire ça. C'est le problème de l'économie et du business dans le vélo.
Donc le business n'est pas en train de tuer le vélo, mais plutôt de le faire.
En fait, il voudrait plus de business, quoi, Jérôme. C'est ce que tu es en train de dire.
Moi, ce que je veux, c'est qu'on crée encore plus de business,
davantage de ressources,
de l'équilibre, évidemment. Et l'idée de mettre en place. On me parle, moi, souvent de salary cap. Oui, pourquoi pas. Mais l'idée, c'est pas de limiter, c'est d'aller encore plus haut. Si on commence
et donc, s'il y a des transferts, il y aura des lofts aussi, Jérôme.
Oui, ça, c'est sûr.
Il y a un règlement.
Ils seront plus grands parce que les lofts, il faudra mettre les vélos.
Alors, l'avantage du vélo, c'est que tu as beau avoir 30 coureurs, tu as à peu près 4 courses par week-end où tu en alignes 8. Donc, à un moment donné, tu peux quand même faire courir tout le monde. Et en plus, il y a un règlement où tu es obligé de les faire courir. Donc, Frédéric, excuse-moi, dans le vélo, il n'y aura pas de lofts. Deuxième chose,
quand il t'abrite, si tu arrives c'est mauvais signe, hein, Jérôme.
À faire rentrer ces business-là, que ce soit ça, que ce soit des hospitalités publiques où tu peux faire venir du public, tu peux faire payer les gens pour assister au spectacle, mais il faut que le spectacle il soit quand même ouvert aux équipes. Aujourd'hui, clairement, sur une course, je te prends l'exemple et j'arrêterai là après. Les Champs-Élysées, c'est un fabuleux spectacle pour toutes les équipes. L'arrivée sur les champs du Tour de France, alors cette année c'était à Nice pour des raisons qu'on connaît. On pourrait en faire un stade avec une partie réservée à l'organisateur, qui est ASO, qui amène ses gros partenaires et qui fait vivre le cyclisme dans le monde. Et pourquoi pas réserver une partie de ce circuit-là aux équipes qui achèteraient des tribunes et qui rempliraient ces tribunes grâce aux hospices pour faire du business. Ça, c'est pas possible. Ah oui. C'est veto.
Moi, ça me choque partout. Ce que tu dis, parce que le vélo, c'est ouvert à tous. C'est justement un sport ultra populaire. Ouais, tu perdrais peut-être.
Comme c'est ouvert à tous, c'est l'UAE, c'est Emirat, c'est Bahreïn, qui continuera à dominer. Et nous, on va pigner parce qu'on n'aura toujours pas gagné un Tour de France. Parce que,
C'est ce qui fait la force du vélo aussi, Jérôme. Tu le sais, son côté populaire.
Mais oui, la force du vélo, d'accord. La force du vélo, après, il y a des mecs comme moi qui créent des équipes et tu fais tellement de business qu'au bout de 5 ans, tu te fais avoir par un sponsor et tu te retrouves, le mec dans l'eau, il t'envie. Je suis le premier, mais j'étais pas le premier, mais je serais pas le dernier si on continue à penser comme ça que le vélo c'est génial, il faut que ce soit gratuit, et tant pis si les autres dominent et nous en France, mais c'est cool, c'est
Mais t'es bien, Jérôme.
Les gens peuvent y aller gratuitement.
Tu peux quand même considérer que ce qui fait la force du vélo et notamment du Tour de France, c'est la gratuité.
Non, mais je te dis pas de faire payer les spectateurs.
T'es d'accord avec moi.
Ouais, Pascal, t'as pas compris ce que je voulais faire.
Oui, j'ai compris les sponsors. Le mec qui dans le stade, dans l'arrivée.
Donc, dans un stade, t'as des mecs qui payent leur place. Tu vends aussi à des partenaires.
En fait, c'est pareil. Ce que tu veux dire, c'est qu'aujourd'hui, toute l'hospitalité.
Ça gêne le business.
Oui, ce que tu veux dire, c'est que ça va tuer le vélo.
Il y a la possibilité de faire plus, mieux pour les équipes, en fait.
Mais ça va tuer le vélo.
Exactement.
Le business actuel en l'état. Qui fait le spectacle ? Le vélo.
Évidemment. Le business actuel ne tuera pas le vélo si on le pense.
Il y a une vraie révolution à faire, à t'écouter. Il y a une vraie révolution à faire.
Il faut tout changer, en fait, Jérôme.
T'as pas le choix.
Jérôme, le business va tuer le sport.
En l'état qu'il est là, si on le pense différemment, non, il ne le tuera pas, mais il le fera. Il fera qu'augmenter les différences entre les grandes équipes et les équipes.
Les disparités, le plaisir des gens à regarder de moins en moins intéressant.
En ce moment, c'est le mercato dans le cyclisme. C'est la période du mercato. Les gamins français les plus doués s'en vont. Et on n'est même pas capable, parce qu'on n'a pas une thune, pour récupérer nos vedettes. On parle là, Julien Alaphilippe. une équipe comme Total Energy n'a même pas su récupérer. Pourtant, je te parle pas de l'épicier du coin, hein, je te parle de Total Energy. Nos gamins s'en vont à l'étranger, ils ont des ponts, ils ont des salaires de fou, des contrats très longue durée. Et je te dis que si on continue comme ça et qu'on réfléchit pas différemment, on va continuer et ce sera l'exode et on pourra pas recruter et on va continuer à prendre des claques.
Donc alors tout simplement c'est la mort des équipes françaises, c'est la mort des équipes professionnelles françaises.
C'est pas la mort, mais on freine. Mais Marc, moi je suis d'accord avec Marc, hein, que on est en train de créer un vélo. On a parlé à l'époque pour d'autres raisons de vélo de cyclisme à deux vitesses. Si on continue et qu'on réfléchit pas, mais c'est à eux les acteurs de réfléchir différemment. On va vers ça, ouais, bien sûr. Bon, on aura les quatre équipes qui ont gagné toutes les courses. Et les autres, et bon, ils vont faire ce qu'on dit, les second rôle et les figurants.
Alors, plutôt convaincant, Jérôme, c'est vrai. Malheureusement, c'est Fred qui remporte ce bras de fer des grandes gueules du sport parce qu'il est toujours à 70% de oui, le business est en train de tuer le cyclisme. Mais comme il y a les podcasts des grandes gueules du sport.
Les gens sont cocorico, ils ont envie de voir les coureurs français.
En tout cas, comme il y a les podcasts, vous pouvez encore voter, hein, bien sûr, ceux qui nous écoutent en podcast.
Et ça peut changer. Le business en l'état.
Moi, j'ai rien à tu peux pas avoir gagné ce débat. Il y a 5 ans, on s'est rencontrés, je t'ai expliqué ce que c'était qu'un pédalier. Tu peux pas gagner un débat sur le vélo quand même.
Et ben, t'imagines qu'en 5 ans, j'ai été plus fort que toi.
Il a peut-être fait du vélo depuis. Il a peut-être fait du vélo depuis grâce à toi.
J'ai regardé du vélo.
Pas beaucoup.
Bon, on revient dans un instant, les grandes gueules du sport. C'était passionnant et je pense qu'on aura ce débat à plusieurs reprises dans les grandes gueules du sport, c'est évident. On revient avec la punchline dans un instant. Elle est signée Sofiane Meyaoui, qui est membre de l'équipe de France de basket fauteuil à 3 jours des Jeux Paralympiques. Il contredit Teddy Riner qui parle de super-héros en parlant des athlètes paralympiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou non? On en parle dans un instant dans les grandes gueules du sport. On revient tout de suite.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
10h31 sur RMC, vous écoutez les grandes gueules du sport et vous avez raison, ce dimanche, ils sont là en pleine forme. Pascal Duprat, Jérôme Pinot, Fred Weiss. Dans un instant, il y aura le zapping des grandes gueules avec en vedette, la pelouse de Nice. On en parlera dans un instant. Mais d'abord, c'est l'heure de la punchline, comme tous les week-ends à cette heure-ci. Elle est signée aujourd'hui Sofiane Meyaoui de l'équipe de France de basket fauteuil. Il répond à Teddy Riner qui mettait en avant les athlètes paralympiques en disant que c'était des super-héros.
RMC, la punchline GG.
Faut vraiment que tu arrêtes de parler de nous de cette manière, tu ne nous aides pas. On n'est ni à plaindre, ni à valoriser de cette manière. On est des personnes en situation de handicap et nous souhaitons être considérés comme des personnes normales. Quand on nous surexpose, ce n'est pas bien. On n'est pas des super-héros. On est des athlètes. Donc, venez nous voir parce qu'on va faire des performances, on va faire des exploits sportifs. C'est pour tout ça qu'il faut venir nous voir.
Sofiane Meyaoui avec l'aide de Siri, évidemment, pour cette déclaration en réponse à Teddy Riner. Donc, vous l'avez compris. Les GG, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Sofiane Meyaoui? Jérôme Pinot.
Moi, je suis pas d'accord sur le fait qu'ils s'en prennent à Teddy Riner.
Tu vas nous développer ça. Pascal Duprat.
Je suis d'accord.
Fred Weiss.
Entièrement d'accord.
Avant de vous écouter plus longuement, il a quand même réagi sur l'antenne d'RMC. C'était vendredi dans l'Intégral Sport avec Benoît Boutron. Parce que, évidemment, sa déclaration, celle que vous venez d'entendre, a été reprise à de multiples fois. Et donc, on va écouter parce qu'il a voulu préciser sa pensée.
J'ai rien contre Teddy, c'est un mec super sur le terrain, comme en dehors du terrain. Et je voulais préciser aussi que c'est le seul athlète olympique qui parle des Jeux paralympiques. Donc merci à lui, bravo. Moi j'ai réagi comme ça parce que je voyais beaucoup de mes amis partager un peu ce que disaient et pour moi c'était plus par rapport à eux, quoi, d'arrêter de partager parce que moi ça me touche. Parce que je suis un athlète avant tout, avant d'être une personne en situation de handicap. Et donc quand on dit vous êtes les vrais athlètes, les Avengers, les vrais super-héros, ben c'est un peu comme nous considérer un peu différent. Il a déjà partagé un post il y a pas longtemps en disant qu'on était plus méritants. Et ça aussi, ça m'avait un peu titillé. On n'est pas plus méritants, on est autant méritants que n'importe quel athlète. Et voilà. Donc du coup, c'était pour ça que je voulais un peu réagir.
Voilà, il s'explique un petit peu, même s'il ne change rien de ce qu'il pense de la déclaration de Teddy Riner, Jérôme.
Non mais en fait c'est moi je réponds à la question posée, c'est-à-dire est-ce que ça m'embête qu'ils s'en prennent à Teddy? Oui, parce que la déclaration de Teddy Riner elle est pleine de bienveillance,
bienveillante.
De d'empathie et de support, quoi. Il était dit, il en parle, ces Paralympiques, quand à peine fini, il a dit, c'est pas fini, dans 15 jours, ça repart, et nos Français en Paralympiques, je pense que...
Non, mais c'est le mot super-héros qui le dérange.
Oui, mais super-héros, il voyait pas en cela le mec un super-héros parce qu'il y a une prothèse de là, parce qu'il y a un œil. Enfin, c'est pas dans ce sens-là. C'est que dans les conditions dans lesquelles peuvent se préparer les athlètes en situation de handicap, c'est encore plus compliqué puisque des stars du sport, on le sait, les grandes stars, comme il est lui, a des conditions favorables, à des revenus, peut se permettre des stages, des prépas, alors que ce n'est pas le cas dans les disciplines paralympiques. Et c'est ça qu'il a voulu mettre en avant, c'est que la vie pour ces parathlètes est déjà compliquée à gérer. Parfois, ça coûte très cher. Un fauteuil, adapter son logement. Et en plus de cela, ils vont sortir les doigts à l'entraînement pour performer. C'est dans cela. Et moi, je pense que je suis aussi d'accord avec lui quand il dit, venez nous voir pour les perfs. Oui. Mais ce qu'a voulu faire, mettre en avant déjà Teddy Riner, c'est penser mettre en avant les Jeux Paralympiques. C'est pas fini, ça recommence. Il y a des nouveaux Jeux Olympiques qui recommencent à Paris. Ce seront des Jeux différents pour les athlètes en situation de handicap, mais qui sont tout aussi exaltants et intéressants et des très belles performances à suivre, et notamment pour les Français. Mais aussi mettre en avant le fait qu'il faut que ça change, il faut que les choses bougent, il faut que les athlètes en situation, les parathlètes, puissent avoir des moyens, si ce n'est autant, mais plus de moyens que les athlètes valides pour pouvoir encore faire la promotion des Jeux Paralympiques.
Non, c'est justement là où il, contre ce qui veut lutter, en fait, c'est que faire une différence. Moi, j'ai eu du mal à comprendre au départ, je l'avoue, quand j'ai lu ça, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il veut Teddy Riner ? Parce qu'au moins il parle des Jeux Paralympiques, il en parlant bien. Et puis ensuite, vendredi, sa précision, elle m'a fait comprendre une chose. C'est qu'en fait, il veut être juste considéré comme un athlète, c'est tout. Il veut pas qu'on s'apitoie sur son sort. Il veut pas qu'on le prenne pour une bête de foire. Et en cela, je comprends. Je comprends qu'il veut être jugé comme un athlète parce qu'il s'entraîne comme un fou, et pas parce que, quelle bravoure, il fait du sport alors qu'il est handicapé. Non, il est une personne intégrante à part entière, et il se trouve qu'il s'entraîne tous les jours comme un dingue, comme n'importe quel valide, pour obtenir les meilleurs résultats possibles. C'est ce à quoi il tend, juge sur ses performances.
Juste en fait, ce qu'il en est, parce que alors je côtoie un peu le handicap, moi j'ai un enfant handicapé et j'ai fait des stages de basket fauteuil. Pour en avoir parlé un petit peu, c'est juste une réaction épidermique. Je rejoins Jérôme, c'est pas le pauvre Teddy Riner qui essaye justement de parler du sport différent, parce que j'aime pas le sport handicap, para, j'aime pas tellement l'appellation, mais le sport différent, c'est en fait la réaction de ras-le-bol. En fait, ils en ont marre, ces personnes, qu'on dise que c'est des personnes handicapées qui font du sport. C'est pas des personnes handicapées qui font du sport, c'est des surathlètes.
Ah non, justement, ils veulent pas qu'on dise surathlète ou super-héros.
Non, c'est des humains qui font du
sport. Oui, non, en fait, super-héros, ça veut dire qu'ils ont plus de mérite que les autres, et eux ne veulent pas ça. Ils veulent être ramenés au fait que c'est des sportifs avant tout. C'est pas des personnes handicapées, c'est des sportifs avant tout qui font d'extraordinaires performances, comme les athlètes en général. Et c'est vrai que ce ras-le-bol, cette sensation d'être mis à l'écart, de dire non, mais ne fais pas de sport. J'ai parlé à beaucoup de sportifs... En situation de handicap, en fauteuil roulant principalement, et il me disait, mais Fred, quand on va à un endroit, on nous dit, mais non, mais ménage-toi, non, mais fais attention à toi. On en a marre de ça. En fait, c'est plus une réaction épidermique.
Cette espèce de sensiblerie.
J'en ai marre qu'on essaie de nous protéger. On n'est pas des enfants, on sait ce qu'on fait, on est des athlètes, et nos performances parlent pour nous. On veut pas que nos handicaps parlent pour nous. Nos performances parlent pour nous.
Ouais, en tout cas, effectivement, RMC, on vous le rappelle, est radio officielle de ces Jeux Paralympiques. On parlera des performances des athlètes. Tiens, attendez, c'est le téléphone des grandes gueules qui sonne là. Bonjour, qui nous appelle ?
Salut, c'est Cécile Hernandez.
Ah ben c'est Cécile, salut Cécile.
Salut, vous allez bien ?
Tu seras consultante RMC pendant ces Jeux Paralympiques. Bonjour, ça va Cécile ?
Bonjour.
Merci, oui, ça va. Moi je suis là pour réagir à tout ce que j'entends, à tout ce qui s'est dit, à ce qu'a dit Teddy, à ce qu'a dit Sofiane.
Je rappelle juste, précise pour tous ceux qui nous écoutent, que tu es quand même championne paralympique de snowboard cross à Pékin en 2022 et que tu seras donc à nos côtés pour vivre ces Jeux Paralympiques sur RMC, Cécile.
Exactement, et c'est une grande fierté. Alors, moi je viens réagir parce que sur tout ce que vous avez dit. Il y a du pour et du contre. Alors Teddy, il a dit ça sous une forme de bienveillance. Il a dit ça partait du principe de dire voilà, n'éteignez pas votre télé. Il y a des jeux qui continuent, c'est des jeux paralympiques, on le sait. Pourquoi para? Parce que c'est en parallèle des Jeux Olympiques. Ce n'est pas la même organisation. Ce ne sont pas les anneaux, ce sont les agitos. Ces trois virgules rouge, bleu et verte qui symbolisent plein de valeurs liées au paralympisme. Ce n'est pas la même flamme aussi, parce que ça fait plein de débats. Il y a une flamme qui vient de Grèce et il y a une autre flamme des Paralympiques qui vient d'Angleterre. C'était très bienveillant. C'était vraiment, regardez-nous, regardez les athlètes paralympiques, ils débarquent dans pas longtemps. Sauf que la réaction de Sofiane, elle est de dire, attention, ça fait un peu pathos ce qu'il est en train de dire. Nous, on veut de la sympathie, on veut pas de l'empathie. C'est-à-dire, on est des athlètes, vous venez de le dire, on est des athlètes. On s'entraîne tout autant que les autres. On a moins de moyens, parce que forcément, les athlètes handisport, les athlètes paralympiques ont moins de moyens que les athlètes, les olis. Mais par contre, on s'entraîne fort, on veut aller chercher les mêmes médailles, on veut faire vibrer la France de la même manière. On n'est pas des super-héros, on n'a pas notre petit costume de Batman ou de Superman qui nous moule, on n'a pas une identité, on n'est pas là pour établir la justice de la vie, on n'a pas des pouvoirs super-humains. Certes, on a un peu le côté, pour certains qui sont empareillés ou qui ont une prothèse, on a le côté un peu bionique, parce que c'est vrai, il y a des athlètes paralympiques, quand tu es sur les réseaux, c'est Bionic Man ou Bionic Woman, des trucs comme ça. Mais en tout cas, on est des athlètes. Et c'est pour ça que moi, quand je dis, quand on parle des personnes handicapées, on dit toujours personne, on ne dit pas des handicapés. Eh bien, pour les athlètes, c'est pareil. On est des athlètes handicapés. Donc, avant d'être des handicapés, on est des athlètes. Et ça, c'est quelque chose de fort à retenir.
On est d'accord.
Et en fait, on veut de l'équité. Les athlètes, aujourd'hui, les athlètes paralympiques, ils veulent de l'équité. Ils veulent de l'équité financière, ils veulent de l'équité en termes de structure, ils veulent de l'équité en termes de traitement médiatique. Donc, que ce soit juste. Et d'ailleurs, la France a très bien compris depuis quelques années, on a une seule équipe, ça s'appelle l'équipe FRA. On a une seule équipe qui rejoint les équipes olympiques et paralympiques ensemble. Et on l'a vu aussi dans les traitements des Jeux qui ont été équitables, ou en tout cas qui cherchent à l'être. Et ben, on a les anneaux. D'un côté, t'as le logo, la flamme du symbole des Jeux de Paris. D'un côté, t'as les anneaux. Les deux ont été associés. De l'autre côté, t'as les agitos pour essayer de faire évoluer ça. Ouais. En tout cas, c'était bienveillant, mais je comprends le coup de gueule de Sofiane à 100% pour dire, voilà, on veut pas de pitié, on veut de l'empathie, on veut de la sympathie. Certes, on a une particularité. Certes, soit on est né avec un handicap de naissance, soit on l'a acquis au cours de notre vie. Mais en tout cas, on vit au quotidien pour essayer de faire briller notre sport, pour essayer de faire briller notre performance, et pas pour être reconnus comme des gens qui se sortent super les doigts parce qu'ils font quelque chose d'extraordinaire. Non, ils font ce qu'ils ont choisi, ils font leur sport.
Et Jérôme, tu voulais réagir à ce que disait Cécile?
Ouais, non, mais je suis d'accord avec Cécile, sauf qu'on peut aussi être très fier d'avoir un mec comme Teddy Riner qui met en lumière tout ça. Je pense qu'on en revient toujours, tu le disais, Cécile, c'est de la bienveillance. J'ai suivi aussi la suite de l'interview. Il n'y a pas eu que ce passage-là. Il parle aussi, quand il parle de super-héros, entre guillemets, et il parle beaucoup, Teddy, des moyens mis à disposition pour ces athlètes et de la différence qu'on essaiera de combler. Moi, je pense que c'est une super mise en valeur. Et évidemment, de trop l'entendre. Mais le débat, tu vois, c'est d'où on part, c'est est-ce qu'on a raison de s'en prendre à... Non, Teddy, il a voulu mettre en avant tout cela. Et c'est très valorisant d'avoir un athlète qui est multiple champion olympique, de se dire, et je suis d'accord avec lui, on doit le répéter tous les jours, ça, c'est pas fini, ça recommence, les jeux reviennent. Et c'est ce qu'il a voulu mettre en avant.
Et c'est une mise en valeur, effectivement, aussi.
Je comprends effectivement.
Et c'est ça, en fait, c'est vraiment de dire... C'est ça, Teddy. En plus, c'est le sportif préféré des Français. Donc, c'est aussi trop bien que Teddy s'intéresse aux Jeux paralympiques. Je suis sûre, on a vachement remarqué la présence de Griezmann pendant les Olis. Mais je suis sûre que si Teddy est dispo, il se rendra disponible dans le prolongement de ce qu'il a été fait. Et c'est bien d'en parler parce que c'est ce qu'on veut. On veut parler des Jeux paralympiques. On veut mettre des coups de projecteur sur les Jeux paralympiques. Et c'est vrai, il faut le reconnaître aussi, que quand tu vas sur des compètes et quand tu vois des mecs qui sont double amputés ou des mecs dans le basket ou dans le rugby fauteuil qui ont pas de bras et qui attrapent le ballon et qui vont marquer, eh ben il y a un effet waouh. Il y a un effet waouh. Il y a ça peut te dire, tu découvres aussi autre chose et c'est bienveillant et c'est aussi ça met un coup de projecteur sur ce qu'est la société et le sport est là pour ça. Le sport est là pour mettre en lumière des valeurs humaines, des valeurs sportives et il est le reflet de la société dans la bienveillance aussi, dans le fair play et dans l'équipe. Et ce que a fait Teddy Riner, c'est un côté esprit d'équipe. Et après ça a été c'est un petit buzz aussi, mais de dire on n'est pas des super-héros, on est des athlètes et on va vous montrer des super performances.
De préciser ça exactement et on parlera bien sûr sur RMC de ces performances parce que c'est comme ça que les athlètes paralympiques veulent être traités aussi à travers bien sûr leurs performances et pas seulement à travers leur handicap, c'est ça qui est important. Évidemment.
Et tous les sports sont fantastiques.
Oui, mais comme si les basketteurs.
Prenez pour ma part. Voilà.
C'est pour ça.
Mais après, tu vois, le côté super-héros.
Au début. Oui, vas-y, Cécile.
Le côté super-héros, c'est aussi de se dire, vous l'avez dit tout à l'heure tous, c'est l'adversité au quotidien. L'adversité, elle va, dans les moyens financiers, elle va dans le prix des prothèses, dans le prix des fauteuils où tout n'est pas forcément remboursé comme il se doit. Elle va dans l'adversité de l'accessibilité aussi au quotidien. C'est pas simple tout ça. Donc, c'est pas que sur un terrain. Ça va au-delà et aller voir les Jeux paralympiques, c'est de se rendre compte de tout ce qui est fait, tout ce qui est à faire et l'effet waouh que ça va vous apporter parce que ce soit dans les. C'est des performances sportives, donc on prend une claque à tout niveau.
Alors, Cécile, c'est un grand plaisir de t'avoir eu d'abord dès maintenant sur RMC dans les grandes gueules du sport parce qu'on pourra te suivre donc sur RMC et à partir de mercredi aussi sur la radio digitale 100% bleu avec donc 100% paralympique pour suivre toutes les performances des athlètes français. On est ravis de t'accueillir dans l'équipe RMC en tout cas, Cécile Hernandez.
Merci beaucoup.
Merci,
un grand merci.
Merci d'être venue et d'avoir apporté ton éclairage justement sur ces Jeux paralympiques. On va continuer d'en parler parce qu'on va retrouver tout de suite à Calais, Fleuristine Jaffrelot qui a été envoyée par RMC Sport à Calais où la flamme ne va pas tarder à arriver en France. Bonjour Fleuristine.
Salut à tous, salut les GG.
Ah oui, parce que la flamme elle est déjà allumée, ça s'est passé en Angleterre hier à Stoke, mais on l'attend aujourd'hui en France pour commencer son parcours.
Oui, la flamme arrivera à Calais en milieu de journée. Elle vient tout juste de prendre la route au départ de Folkestone, dernière ville anglaise avant le tunnel sous la Manche. La para-athlète britannique Hazel Robson, capitaine du relais collectif accompagnée de 23 autres para-athlètes anglo-saxons, passera le flambeau dans le tunnel à la française Emmanuelle Asman, escrimeuse et ancienne présidente du comité paralympique et sportif français. C'est à ce moment-là que les 24 relayeurs tricolores prendront le relais pour arriver ici même, à la sortie du tunnel aux alentours cette fois. C'est prévu vers 13h. La flamme traversera la ville tout l'après-midi avant de finir son périple en plein centre de Calais et enfin allumer le chaudron. À savoir aussi que Paris 2024 a choisi un relais resserré au niveau du temps puisque les Jeux commenceront dans 4 jours, mercredi. Le comité a décidé de démultiplier la flamme en 12 flambeaux comme les 12 jours des Jeux paralympiques. L'un bien sûr ici et même à Calais mais aussi dans 11 autres villes de l'Hexagone. La flamme pourra donc être vue aujourd'hui en plus de Calais, à Antibes, Montpellier, Saint-Malo ou encore Lourdes.
Merci beaucoup Fleuristine, tu vas suivre ça pour nous, ce parcours de cette flamme olympique. Merci beaucoup, restez avec nous les grandes gueules du sport qui reviennent dans un instant. Il y aura un nouveau zapping au programme, on va parler de la pelouse dans un état catastrophique à Nice et pourtant le match a lieu. Ça sera dans un instant, restez avec nous sur RMC, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
10h50 sur RMC, vous écoutez les grandes gueules du sport. Jérôme Pinot, Pascal Duprat, Fred Veil ce matin. Dans un instant, les grandes gueules passent la seconde avec ce débat autour de Kylian Mbappé qui réclame 55 millions d'euros au PSG. On vous explique tout et on vous pose cette question. Est-ce que c'est choquant ou non? Et puis on continue de parler des Jeux paralympiques sur RMC avec Mickaël Jérémiaz, ancien porteur de la flamme paralympique à Rio en 2016 qui sera avec nous. Ça sera à 11h30. Mais d'abord, c'est l'heure d'un nouveau zapping dans les GG.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Et donc on commence comme je vous le disais par la pelouse de Nice-Toulouse, catastrophique, mais le match aura bien lieu, ça sera tout à l'heure à 17h. On s'en fout pas, Fred Weiss.
Oh, je m'en fous.
Pascal Duprat.
Je m'en fous.
Ah d'accord, Jérôme Pinot.
Ah ben je m'en fous pas.
Ah ben merci Jérôme, tu me sauves la mise. On va pouvoir écouter Franck Hez, le coach des Aiglons, parce que la pelouse de l'Allianz Riviera, victime à la fois d'un enchaînement de matchs, de la météo et d'un champignon qui a grillé l'herbe sur pas mal d'endroits. On a cru même un moment que le match serait reporté, mais finalement, il a bien lieu au grand désarroi donc de Franck Hez.
Je suis allé voir la pelouse avec mon staff jeudi et je pensais honnêtement qu'on jouerait pas. Après, on m'a dit que c'était juste un problème esthétique. Il faut juste venir sur le terrain pour bien comprendre que c'est pas juste un problème esthétique, sinon il suffirait de peindre en vert des parkings et puis on pourrait jouer au foot. Les professionnels disent qu'elle est pas dangereuse, c'est d'ailleurs pour ça qu'on joue. J'attends de voir à la fin du match si elle était pas dangereuse. En tout cas, c'est pas une pelouse classique. Quand on voit les photos, on peut juste penser qu'elle est un petit peu jaune par endroit. Il y a des irrégularités, il y a des endroits où elle est totalement grillée, il n'y a plus un brin d'herbe sur pas mal d'endroits, et puis il y a des endroits où elle est noire parce qu'il n'y a plus de drainage qui fonctionne, et il y a comme une couche de je sais pas de quoi, j'appelle ça de la vase, moi je sais pas si c'est de la vase, parce que mais ça y ressemble un peu quoi. Ben, si on avait été consulté, il n'y aurait pas eu de match.
Ça promet, hein, pour ce Nice-Toulouse, voilà, ça va être sympa à 17h, Jérôme. T'es le seul à avoir dit que tu t'intéressais à cette info.
Bah oui, ça m'intéresse parce qu'en fait, tout simplement, c'est encore une fois la mise en danger un peu de l'athlète. Si la pelouse est dans l'état qu'on la voit, même sur les photos, Franquès dit il faut être proche, mais je pense qu'il ne faut pas être forcément proche et juste voir regarder les photos et les vidéos prises de la pelouse ces dernières heures pour voir qu'un match de football de qualité et qui ne met pas en danger quelque part la santé ouais. des athlètes pour blessure. Évidemment, il n'y a pas danger de... Autre que blessure, mais c'est déjà assez sur un état de pelouse. Et quand on voit les budgets des clubs et tout ce qu'on peut mettre en place et ce qu'on peut faire à côté, je pense qu'il aurait été raisonnable pour le spectacle simplement de décaler ce match ou de le reporter et d'infliger à Nice une amende ou une obligation de changer de pelouse. Mais c'est la même chose à Nice et c'est aussi, on a vu la pelouse du parc qui normalement est un billard, est abîmée aussi. C'est un syndrome qu'on voit apparaître là de ce début d'année là quand on parle de la Ligue 1, mais quand on voit aussi l'état de certaines pelouses de Ligue 2 à l'ouverture de la saison. Je sais que le débat est très fort en ce moment sur les droits télé, est-ce qu'on va perdre la regarder là, notre Ligue 1, notre Ligue 2. Il faut travailler aussi la qualité autour du football et autour okay. pour le spectacle en lui-même. Et le cadre n'est pas beau en ce moment, et ça, c'est clair.
Bon, en tout cas, on a bien compris que Pascal Duprat, la pelouse, ça ne l'intéresse pas.
Max Verstappen. Non, mais je respecte. J'ai dit non. Ah, oui, voilà. J'ai beaucoup de commentaires à faire, mais j'aurais dû dire oui. Mais bon,
bah oui, bah tant pis. C'est comme ça.
Tant
c'est
pis le principe. Pour moi.
Max Verstappen. On va parler de F1, deuxième info dans ce zapping. Max Verstappen, donc, il va disputer son 200e Grand Prix de Formule 1 chez lui au Pays-Bas, mais qui ne sera pas en pole position. On s'en fout pas, Pascal Duprat.
Non, je m'en fous pas.
Fred Weiss.
Oh, je suis constant dans l'effort.
Il s'en fout, d'accord. Un air zapping pour Fred Weiss. Jérôme Pinot.
Non, je m'en fous pas.
Oui, le pilote hollandais qui va partir aujourd'hui en deuxième position derrière Lando Norris. Il n'a plus gagné depuis 4 courses, c'est une éternité hein, pour le pilote Red Bull. Mais il a toujours gagné chez lui depuis le retour de ce Grand Prix des Pays-Bas en 2021. Il a aussi annoncé en marge de ce Grand Prix qu'il ne se voyait pas faire 200 courses de plus. Il a 26 ans, 200 courses, c'est environ 9 années supplémentaires sur les circuits. Tu t'en fous pas, Pascal ?
Non, je m'en fous pas parce que ça trahit un peu l'énervement de Verstappen en ce moment. On pensait qu'il était indéboulonnable, on le voyait sûr de sa force. Et puis voilà que les McLaren Mercedes, et notamment Lando Norris, lui donnent du fil à retordre. Alors j'ai l'impression qu'il perd de son sang-froid. Voilà.
Il a 78 points d'avance sur Norris.
Il s'en prend souvent à ses mécaniciens, il s'en prend quelquefois à ses directions, il y a son père qui en rajoute une couche. Voilà, il avait la réputation d'être quelquefois un tantinet désagréable, sûr de lui, ben il le confirme là au travers de ses déclarations.
Jérôme ?
Ben non, on s'en fout pas parce que je confirme de ce que dit Pascal et rappelez-vous, on a eu ce débat sur Verstappen avec tous les heurts qu'il a pu avoir dans son entourage, notamment les déclarations de son père, les maîtresses de son père, son coach, son agent qui est à la tête de Mercedes, etc. Et on disait bon non, ça va, tout va bien et on avait soulevé et Pascal était d'accord avec moi sur cette émission là que bah oui, Verstappen tant qu'il domine ça va aller, mais le jour où ça va un peu dérailler et qu'il va plus dominer, ça va partir en sucette et c'est en train gentiment de l'agacer et donc de partir en sucette parce que ce garçon est un peu hautain et un peu sûr de lui dans tout ce qu'il fait et aujourd'hui il domine moins et on sent que ça l'agace. Alors il dit je veux pas faire 200, bon là ça m'a pas choqué parce que c'est 9 ans encore, donc quand tu commences à un peu perdre de ta superbe, évidemment que tu te projettes pas à si longtemps, mais par ses déclarations, par ses agissements, le fait de pas être en pôle chez lui aux Pays-Bas, c'est quand même c'est un Hollandais, on connaît un peu les Bataves, ils aiment bien, ils sont assez...
Il pourrait être coureur chez Visma.
Il bombe le torse, ouais, il pourrait être total leader chez Visma. Il serait très pote avec Plugue, je suis sûr. Et du coup, voilà, ça commence à l'agacer. Bah ouais, il est moins bon, il est battu, il est titillé.
Ouais.
Et donc,
c'est pas mal pour le suspense, en tout cas. Nous, on aime
c'est
bien.
C'est très bien pour le suspense, mais ça nous, voilà, moi je rejoins Pascal, ça nous met une petite photographie du personnage qui est Verstappen.
Départ à 15h de cette course Grand Prix des Pays-Bas, ça sera à suivre bien sûr sur RMC avec Jean-Luc Roy au commentaire. Les grandes gueules qui reviennent tout de suite sur RMC avec promis Dufred Weiss qui va pouvoir parler, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu, sur le débat autour d'Mbappé qui réclame 55 millions d'euros au PSG. Est-ce que ça vous choque ou non? Venez nous dire ce que vous en pensez au 32-16 dans les grandes gueules. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.